L'île de Circé, l'enchanteresse. Lue par Angèle, Luana, Emeline, Lina et Tony.
Vous écoutez Radio Campus Tours.
Dans le chapitre précédent, Ulysse rencontre les dieux du vent Éole, qui l'aidera à regagner Ithaque grâce à une outre magique. Malheureusement, les marins trop curieux l'ouvrent et l'équipage est retourné au pays d'Éole.
Poséidon, qui n'avait pas encore assouvi sa vengeance, poussa le gouvernail du bateau d'Ulysse en direction de l'île d'Aïa où vivait Circé la magicienne. Puis il ricana un peu en voyant le navire poursuivre sa route. Comment Ulysse sortirait-il de ce piège-là, cette fois ? Hé 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 ! Il n'avait aucune chance. Le navire s'approcha bientôt d'une côte où les courants l'avaient mené.
Nous allons essayer de trouver des vivres ici, décida Ulysse.
Ces marins, épuisés par toutes ces épreuves, soupirèrent. Mais ils savaient qu'ils avaient besoin de reprendre des forces. Quand le bateau glissa sur le sable d'une plage, ils descendirent à terre et s'écroulèrent sur le sable. Ulysse, lui, partit en reconnaissance.
Je n'ai vu personne, racontera-t-il à son retour. Mais l'île n'a pas l'air inhabitée. Certains des marins voulurent prendre aussitôt la fuite. Pas d'affolement, intervient Ulysse. J'ai aperçu au centre de l'île une belle maison, une très belle maison. Ses occupants seront peut-être généreux en tout cas. Il faut aller voir ce dont ils retournent.
Ulysse leur proposa un plan qui semblait raisonnable.
Nous allons constituer deux patrouilles, dit-il. L'un sera dirigé par Eurylochë, l'autre par moi. Puis nous tirons au sort, celle partira en exploration.
Les deux noms furent mis dans un casque. Ce fut à la patrouille d'Eurylochë de partir en opération.
Ne craignez rien, dit Ulysse à Eurylochë et à ses 22 hommes. Si vous tardez, nous partirons à votre recherche.
La petite équipe partit et se retrouva vite non loin des marches de ce qui n'était non pas une belle maison, mais carrément un palais. Un palais, oui, mais gardé par des lions, des guépards, des loups et quelques autres fauves. Les envoyés s'arrêtèrent net, interdits, épouvantés. Et dire que le mauvais sort était tombé sur eux.
Mais les fauves n'attaquèrent pas. Bien au contraire, ils s'approchèrent des intrus et leur firent fête, comme un bon chien familier, puis quémandèrent des caresses. Quelle étrange bête féroce était cela ! Du fond de la maison montait un chant mélodieux et envoûtant. Une voix tremblante, les envoyés d'Ulysse appelèrent. Aussitôt, le chant cessa et une jolie femme aux boucles gracieuses apparut à la porte, tenant à la main une longue baguette.
Des visiteurs, fit-elle d'un ton ravi.
Pardon ? Notre tenue, balbutia Eurylochë.
Aucune importance, dit-elle. Je suis Circé, et cette île se nomme Aïa.
Elle ne dit pas qu'elle était magicienne. Les animaux féroces s'approchèrent, familiers. Circé caressa la tête d'un loup, tout en invitant les marins à entrer et à profiter de son hospitalité.
Allez-y, dit discrètement Eurylochë à ses hommes, en les poussant en avant. Moi, je reste un peu derrière pour vous couvrir à tout hasard.
L'un après l'autre, les 22 marins de la patrouille entrèrent dans la belle maison. Circé les installa confortablement et leur fit servir un cicéon. Boisson de gros de blé et de fromage dilué dans du vin et du miel doré. Cependant, comme elle était magicienne, elle avait mêlé au breuvage une drogue de sa composition, que les malheureux avalèrent sans se douter du piège dans lequel ils venaient de tomber.
Aussitôt qu'ils eurent bu, elle les toucha de sa baguette et docilement, ils la suivirent jusque dans la porcherie. Ils étaient déjà en train de se transformer. Trottinant à quatre pattes, ils se voyaient pousser des soies, une petite queue en tire-bouchon, un groin, de grandes oreilles tombantes. Ils n'avaient pas bu la drogue depuis 10 minutes, qu'ils étaient déjà tous devenus des corées. Hélas, s'ils ne pouvaient plus s'exprimer que par des grognements, ils n'avaient pas perdu leur conscience. Ça devait arriver, c'était couru, se lamentaient-ils en eux-mêmes. Ulysse nous a menés dans un joli piège, et dire que lui, il a échappé au sortilège.
Sans pitié, en riant de leur malheur, Circé leur servit la nourriture habituelle des porcs. Une grosse pâtée, des glands et des baies sauvages. Et comme ils avaient faim, ils se ruèrent le groin dans l'auge. du buisson où il était dissimulé, Riloc, le chef de la patrouille, assista épouvanté à la métamorphose des hommes en cochons. Il avait bien fait de ne pas aller avec eux. Il fit demi-tour et se précipita vers le bateau. Mais pendant un long moment, il ne put rien dire. Tant qu'il hoquetait des larmes plein les yeux, finalement, reniflant, il narra ce qu'il avait vu.
Cette maison est maudite, Ulysse. Nos compagnons se sont perdus et finiront probablement à la broche.
Mais Ulysse avait passé son baudrier et glissé son épée dans le fourreau.
Conduis-moi là-bas, Riloc.
Voyons, Ulysse, tu ne m'as pas écouté. Tu ne reviendras pas à toi. Toi aussi, tu seras transformé en porc. Chef de la porcherie peut-être, mais porc quand même. En tout cas, moi je n'y retourne pas.
Très bien, reste ici, repose-toi comme un lâche pendant que je vais aller sauver nos compagnons.
Les autres hommes s'entre-regardèrent, mais personne ne se joignit à lui.
Tant pis, se dit Ulysse, c'est à moi d'y aller, c'est mon devoir.
Il s'élança sur le sentier.
C'est alors qu'il fut arrêté au milieu du chemin par un jeune homme qui lui barra le passage. C'était Hermès qui venait de décider de lui donner un petit coup de pouce.
Que, Hermès, c'est bien toi ?
Bien Ulysse, tu es encore en train de te fourrer dans de mauvais draps. Ironisa le dieu, tes compagnons ont été transformés en cochons et tu vas tout droit vers le danger. Tu veux donc te retrouver comme eux dans la porcherie ?
Pas du tout, je veux les délivrer.
Et crois-tu que tu y parviendras ? Circé est une très grande magicienne, c'est une déesse. Vois-tu, tu n'as aucune chance.
Mais alors, que je dois faire ?
Je vais te montrer comment t'en tirer. Tu vois cette petite plante-là ? C'est l'antidote qui t'empêchera de le sortilège d'agir.
Hermès cueillit la plante qui avait la racine noire et la fleur d'un blanc de lait et lui l'attendit.
Les hommes ne peuvent pas l'arracher, mais rien n'est impossible aux dieux, commenta-t-il. Tu la mettras dans la coupe avant de boire et le charme n'agira pas.
Les solutions des dieux sont parfois bien simples à mettre en œuvre.
Elle va ensuite essayer de te toucher de sa baguette. Ne te laisse pas surprendre. Prends ton épée et menace-la. Elle va alors t'offrir son lit. Et qui es-tu pour oser résister à la demande d'une déesse ? Tu accepteras, mais seulement quand elle aura fait le grand serment des immortels, qu'elle ne te fera pas de mal et qu'elle délivrera tes compagnons. Bon, je te laisse maintenant, j'ai affaire.
Merci, commença à articuler Ulysse en serrant dans sa main la petite fleur blanche, mais le dieu avait déjà disparu.
Ulysse avança vers la maison de Circé, l'entendit chanter et l'appela. La belle abandonna son ouvrage, saisit sa baguette, qui jamais ne l'a quittée, et l'accueillit aimablement dans sa maison. Elle installa dans un fauteuil aux ornements d'argent et lui proposa une coupe de vin en rafraîchissement.
Volontiers, répondit-il.
Il serrait dans sa main la fleur donnée par Hermès et saisit la coupe sans broncher. Mais avant d'y porter les lèvres, il y plongea la petite plante. Puis quand il but, non sans une petite appréhension tout de même.
Circé voulut alors tendre sa baguette, mais Ulysse dégaina son épée et posa la pointe sur sa gorge.
Mais le sortilège, que se passe-t-il ?
Elle se laissa glisser à terre et s'inclina vers les genoux de l'Ithaquien.
Qui es-tu ? Toi qui peux résister à mes drogues et enchantements. Ah, je sais, tu dois être Ulysse l'astucieux. Hermès m'avait prévenu. Tu devais faire escale ici en revenant de Troie. Elle se releva toute radoucie. Range ton épée dans ton fourreau, Ulysse. Viens avec moi, soyons amis et montons dans mon lit. Une fois que nous serons unis par le sommeil et l'amour, nous pourrons avoir confiance l'un dans l'autre.
Ulysse ne baissa pas sa garde.
Je ne veux pas te croire, belle Circé. Tu me parles d'amitié alors que tu m'as transformé mes hommes en pousseaux. Tu m'invites dans ton lit et tu penses que je ne vais pas me rendre compte de ta ruse. Tu entendras d'essayer sur moi d'autres charmes tandis que je serai nue. Pas question, ma belle. Je n'accepterai qu'à une condition. Oui, oui, dis vite. C'est le grand serment des immortels que ne tu feras aucun mal et tu délivreras mes hommes.
Ulysse jura et Ulysse entra dans son lit. Des servants qui étaient des nymphes, des sources et des bois avaient pendant ce temps préparé un somptueux repas.
Viens, dit Circé en prenant la main d'Ulysse, mettons-nous à table.
Quel homme penses-tu que je suis ? Me crois que tu as un cœur de pierre, mes compagnons sont dans ta porcherie et tu penses que je vais me régaler d'un bon repas ? Je ne toucherai rien, délie mes compagnons d'abord.
En soupirant, Circé saisit un pot sur une étagère et dit à Ulysse.
Suis-moi !»
Elle fit sortir les pores de l'enclos et les frotta avec l'onguement magique contenu dans son pot. Aussitôt, les longues soies blanches tombèrent à terre, les queues tire-bouchonnées disparurent, les groins redevinrent des nez ordinaires et les hommes se redressèrent.
Redevenant une main, ils se regardèrent les uns les autres, puis virent Ulysse et lui tombèrent dans les bras en larmes.
Ulysse, si tu savais.
Vous êtes sauvés maintenant, les gars. Ne craignez rien, vous êtes sauvés. Les dieux l'ont voulu ainsi. Circé elle-même les rassura. Ne craignez rien, je ne vous lancerai plus de sortilèges comme je l'ai fait pour les imprudents qui sont aujourd'hui les fauves rodins autour de ma maison. C'était donc cela.
Retourne à ton bateau, Ulysse, continua-t-elle. Cache-le bien à l'abri dans les grottes, avec son gréement, et reviens ici avec tout ton équipage. Vous aurez droit à un beau festin dans mon palais, par le grand serment que j'ai fait tout à l'heure.
Ainsi fut fait, et Ulysse récupéra le reste de son équipage avant de regagner la maison de Circé. Pendant le festin, celui-ci prit la parole.
Vivons de bons moments, mes amis. J'ai appris votre histoire et les malheurs et les tempêtes qui vous ont accepté. Allons manger et buvez tous en votre honneur. Vous avez trop souffert, vous avez le droit à une compensation maintenant.
Finalement, la magicienne n'avait pas un si mauvais fond. Les Istaquins prirent leur temps pour restaurer leurs forces et retrouvèrent un bon moral. Au bout d'un an, ils vivaient toujours dans l'île d'Aïa à chasser quand l'envie leur en prenait, à lutiner ça et là quelques nymphes et à banqueter tous les soirs.
Puis le printemps revint, et avec les petites feuilles vertes aux arbres, revint également la nostalgie du pays. Les hommes d'Ulysse commencèrent à s'agiter.
« C'est bien beau la ripaille et bon moment, Ulysse, mais on a l'impression d'être toujours chez Éole. »«
Commençons à avoir le mal du pays. »«
Quand préparons-nous le bateau pour repartir ?»«
Ithaque nous appelle !»«
Je crois entendre la voix de ma femme et de mes enfants. »«
Et moi celle de mes brebis. »
Du reste, Ulysse lui-même était bien conscient que le bon temps qu'il prenait aurait une fin. Et il savait qu'il aurait dû faire lever l'ancre depuis longtemps. Sa quête du puits natal s'était diluée dans le plaisir dispensé par Circé.
Le soir même, alors qu'il rejoignait la belle magicienne, il enroula autour de son doigt une de ses boucles d'un air un peu gêné. Puis il lui annonça avec ménagement qu'il était temps qu'il rentre au pays avec ses hommes.
« Circé, tu as été bonne pour nous. Laisse-nous maintenant rentrer à Ithaque, comme mes compagnons me l'ont réclamé. »
« Oh, bien sûr, je ne veux pas que vous restiez si de mauvais gré. Je vous aide à regagner votre patrie, » fit-elle d'un ton un peu triste.
« Merci, » murmura Ulysse, il ne savait quoi dire d'autre.
« Je vais te donner un conseil. Pour commencer, Ulysse, avant de rechercher à rejoindre Ithaque, il faut que tu te rendes aux enfers. »«
Aux enfers ? La demeure d'Hadès ? Le séjour des morts ? Mais pourquoi ? Je dois mourir ? » ?»«
Non, tu ne mourras pas, mais aux enfers réside le devin Tirésias. Hadès et son épouse Perséphone lui ont permis de garder ses facultés de divination. Consulte Tirésias, il te dira comment rejoindre Ithaque sans affronter d'autres dangers ou en les contournant habilement. »
Ulysse sentit la tête lui tourner un peu.
« Aux enfers, mais comment je vais faire d'ailleurs ? Qui connaît le chemin de ce lieu maudit ?» Circé lui prit gentiment la main.
« Tu y arriveras sans problème si tu fais ce que je vais t'expliquer. »
Elle lui donna alors toutes les indications nécessaires. Ulysse, maintenant impatient de passer à l'action, alla réveiller ses hommes en les secouant un par un.
« Debout, nous partons. »